Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, si vous nous écoutez, c'est que vous avez survécu à la fin de l'année, ce qui est déjà admirable. Mais à l'année 2020, là, je vous tire mon chapeau. La chair est parfois triste, mais nous sommes loin d'avoir lu tous les livres et c'est une nouvelle suffisante pour rester dans le coin. Je vous souhaite une bonne année et la bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez aujourd'hui à la technique. Jason Taous. La gourmandise de ce matin a été rédigée le mardi 3 septembre 1822. Ce sont des prémices émouvantes car elles sont ignorantes de l'importance que prendra le document qu'elles inaugurent. Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seule. Je serai donc vrai, je l'espère, j'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations, je le commence dans d'heureuses dispositions. Première page du journal de Jeanne Delacroix. J'ai dû attendre qu'on parle un tout petit peu moins de lui dans les médias pour inviter notre apothicaire de l'âme. Si vous lisez la presse, je ne vous apprendrai rien sur lui, à part peut-être le fait qu'après avoir fréquenté l'Institut d'études politiques, il a vécu et enseigné le français à Surabaya, en Indonésie, pendant 2 ans pour son service national en coopération. Avant d'être écrivain, scénariste, réalisateur et parfois reporter, il écrit des critiques de cinéma pour Positif et Télérama. Son premier livre est une monographie consacrée à Werner Herzog. Elle précède d'un an son premier roman, L'ami du jaguar, qui évoque entre autres des karatékas et un trafic de zombies. Après d'autres fictions comme La moustache ou La classe de neige, notre homme se plonge pendant 7 ans dans la tête de Jean-Claude Roman, mythomane, se faisant passer pour un médecin auprès de sa famille, qu'il finit pour ne pas être percé à jour par massacrer en janvier 93. Le fruit de cette incursion est un récit magistral, L'adversaire, publié en 2000. Depuis, les œuvres de notre apothicaire se tiennent à distance de la fiction, un roman russe, d'autres vies que la mienne, Limonov ou encore Le Royaume, entremêlent tant de gracieuses symphonies les douleurs personnelles, historiques et humaine. L'auteur d'une biographie romancée de Philippe K. Dick vient de publier chez POL le livre Yoga, qui devait être, je le cite, un petit livre souriant et subtil. Ce fut finalement l'occasion de dévoiler les endroits les plus sombres d'un être dont la venue ici apparaît comme une évidence. Bonjour Emmanuel Carrère.
Bonjour.
Dans votre dernier livre Yoga, paru chez POL, Emmanuel Carrère, vous revenez sur votre dernier épisode dépressif, une dépression qualifiée de mélancolique, soit le degré le plus grave en psychiatrie, le diagnostic de votre bipolarité, votre hospitalisation à Sainte-Anne, la médication, les électrochocs, la souffrance et les démons qui vous accompagnent depuis quelques décennies. Avant la dernière dépression, vous dites avoir connu un cycle favorable d'environ 10 ans, et à présent vos troubles psychiques semblent domptés par le lithium, mais vous savez pourtant que la dépression reviendra, qu'elle est là en embuscade. Jamais il n'a paru aussi pertinent de poser cette question rituelle à un invité, Emmanuel Carrère. Quels sont vos rapports avec la mélancolie ?
Disons que c'est des rapports de proximité, mais heureusement pas. Enfin, vous le disiez tout à l'heure que quand on parle de dépression mélancolique en psychiatrie, c'est vraiment un terme technique, quoi. Et la mélancolie, ça veut pas juste dire qu'on est triste, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd. Dans lequel on peut rester. Une des portes de sortie des dépressions mélancoliques, c'est le suicide, ce qui, Dieu merci, n'a pas été mon cas. Mais au fond, là, par bonheur, moi, j'ai une inclination mélancolique, mais elle est heureusement pas constant, quoi. Je veux dire, une grande partie de la vie, ça va plutôt bien. Je suis pas un affligé perpétuel. Et au fond, ce qui me semble avoir un peu appris avec le temps, c'est à croire moins au caractère absolu de ces états. Vous voyez, le propre de la mélancolie, c'est aussi qu'on croit que c'est définitif, éternel, que jamais on ne sortira de ça. Une dépression dont on croirait que qu'on va sortir, c'est pas une dépression. La chose la plus terrible là-dedans, c'est ce sentiment de fatalité et de définitif. Et donc le progrès qu'on peut faire, il me semble, et ça vaut pas seulement pour des mélancolies lourdes, hein, mais pour les moments de détresse qu'on peut traverser, c'est de pas je sais pas si on peut dire ça, les absolutiser, ou à l'inverse, pouvoir les relativiser, se dire que ce moment-là n'est qu'un moment, et qu'il y aura un passage vers un autre, éventuellement plus, probablement plus souriant, quoi. Ça, c'est déjà quand on se dit que autre chose est possible et sera de nouveau possible, on a fait un grand pas pour s'éloigner de la mélancolie.
Emmanuel Carrère, vous citez assez régulièrement Lénine, il faut travailler avec le matériel existant. Je crois que vous avez fréquenté les divans psychanalytiques pendant à peu près 20 ans et vous dites sans résultat notable. Est-ce qu'on peut tout de même s'améliorer? Est-ce qu'il y a un progrès, une élévation possible, ou est-ce qu'on doit accepter de rester excrémentiel finalement?
Excrémentiel.
Ouais, c'est joli comme mot, non?
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais essayer d'absorber ce mot, il est bien. Quand on dit sans résultat notable, le problème, c'est pas honnête, parce que on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas été en analyse. On ne sait pas ce qui se serait passé si on avait rencontré une autre femme, ou si on ne sait jamais ce qu'aurait été la vie si on avait pris l'autre chemin que celui qu'on avait pris. Donc c'est pas honnête d'incriminer la psychanalyse. Très honnêtement, moi, ce que je peux dire, c'est que à un moment, ayant été en psychiatrie, diagnostiqué comme atteint de troubles de l'humeur, ce qu'on appelle trouble bipolaire, j'ai ensuite été, à partir de là, reçu un traitement au lithium, qui est un truc absolument classique dans ce sens-là, et qui réellement s'est révélé extrêmement bienfaisant, extrêmement bénéfique. Et j'ai une espèce de malaise rétrospectif à l'idée que, en effet, pendant quelques 20 ans, même si c'était pas continu, jamais un analyste n'a émis très vaguement l'idée, l'hypothèse qu'on pourrait aller voir de ce côté-là, du côté de la psychiatrie et de la chimie qui est afférente. Donc il y a une espèce de La parole, c'est très bien. Mais tout de même, à un moment, la chimie, ça se révèle très, très utile. Et donc, voilà, j'ai je peux aller jusqu'à dire grief à l'égard de l'analyse. Bizarrement, je trouve que les analystes sont beaucoup plus étanches et bouchées que les psychiatres.
Les psychiatres
je vous vois faire la moue.
Oui, les psychiatres, j'ai l'impression que c'est toujours « Oh, on va soigner ça par des molécules, finalement. » Comme si toutes les solutions, intégralement...
Non, je ne dis pas que c'est toutes les solutions. Ce que je dis, c'est que pour ce qui me concerne, la solution par des molécules s'est révélée...
efficace.
Alors, je vous dis là, depuis, je ne sais pas, 2 ans peut-être que ça prélude à une espèce d'effondrement catastrophique. Mais ça se révèle quand même beaucoup plus immédiatement et tangiblement utile que la cure par la parole.
Et vous regrettez, Emmanuel Carrère, de n'avoir pas connu le lithium plus tôt ?
Il y a une phrase comme ça, une petite paragraphe d'un poète américain qui était Robert Lowell. Et Robert Lowell disait qu'il avait souffert vraiment de troubles bipolaires sous une forme absolument catastrophique. Et il disait, c'est drôle de penser que si j'avais connu plus tôt, si on m'avait administré plus tôt une espèce de tout petit, quelques grains de sel dans mes circuits neuronaux, j'aurais pu mener une vie normale ou même une bonne vie au lieu de la vie catastrophique que j'ai eue. Et alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais disons que ça fait écho pour moi, cette phrase.
Mais vous arrivez à ne pas répondre là, Emmanuel Carrère. Peut-être que vous n'auriez pas écrit les mêmes œuvres.
Oui, peut-être.
On ne saura jamais. Très bien. Bon, réjouissons-nous, de force. Emmanuel ouais. Carrère, j'annonce le sommaire des réjouissances. Vous allez convoquer dans quelques instants la poétesse Louise Labbé, Thomas Mann, le yoga, Monet, Truffaut, Dutronc, Chopin et des montagnes, juste après un titre de la programmation France Inter, Billie Eilish, Therefore I Am. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
Sur France Inter, en compagnie d'Emmanuel Carrère. On ouvre le bal avec le titre de votre dernier livre, qui est aussi la philosophie qui vous accompagne, puisqu'il s'agit d'un rapport au monde. Pour certains, une simple gymnastique, et ça peut même être suffisant, vous le dites.
Ça peut être tout à fait suffisant, ouais. C'est très bien.
Et c'est évidemment le yoga, mais que vous définissez de maintes façons dans votre livre, mais aussi, vous dites, tout ce à quoi on s'applique avec sérieux et avec amour peut être qualifié de yoga. Le yoga, c'est aussi la méditation pour vous,
oui, Emmanuel Carrère. Tout ce à quoi on s'applique avec sérieux et avec amour, c'est peut-être un tout petit peu pas trop large. Moi, ce que j'appellerais yoga, c'est toutes les disciplines qui sont malgré tout des disciplines physiques et qui visent à une transformation, à un élargissement de la conscience, voilà.
Vous y êtes arrivé par le tai chi?
J'ai commencé à faire du tai chi, oui. Et vous me disiez tout à l'heure, pendant hors antenne, qu'on avait été à la même école.
Oh oui, il y a très longtemps, je faisais du kung-fu
et moi du tai chi.
Oui, et ensuite j'ai fait du karaté, mais ça n'a aucun intérêt.
Et qu'on avait fait la même chose, qui consistait, quand on prenait le métro, à se tenir debout, sans tenir la barre centrale, sans tenir quoi que ce soit, et en essayant de garder l'équilibre, alors que le métro, ça bouge tout le temps. Et voilà, en essayant d'accompagner les accélérations, décélérations, brinque-ballement du métro, ce qui est un truc à la fois très difficile et très amusant, enfin qui est vraiment un exercice d'équilibre, et en plus on essaye de le faire de façon invisible.
Oui, et puis c'est très utile en période de pandémie, donc pour les auditeurs qui voudraient s'y essayer, il suffit de rétroverser un peu le bassin et d'essayer de ne pas être déséquilibré.
Voilà,
sans s'accrocher
et
à
essayer
rien.
De faire vraiment de bien enfoncer les pieds dans le sol et qu'il y ait une espèce que voilà que toutes ces trépidations du métro ça monte dans les par les pieds, ça monte dans les jambes et on les et voilà et ça monte jusqu'au bassin et à partir de là vous voyez, on ondule un peu comme une flamme, comme la flamme d'une bougie.
Peut-être que vous ondulez comme une flamme, Emmanuel Carrère. Moi, j'ai beaucoup moins de grâce dans le métro, mais Emmanuel Carrère.
Je vous crois pas.
Si, pour revenir à vous, faire du yoga, par exemple, sous toutes ses formes, hein, tous les jours, est-ce que c'est vraiment par désir ou par contrainte salutaire? Parfois, on se donne une discipline qui nous ennuie, mais parce qu'on sait que c'est utile, bienfaisant.
Moi, je fais partie des gens qui ne savent pas vraiment tenir les disciplines qui les ennuient. Là, non, là, c'est vraiment quelque chose que je fais, enfin, par plaisir. Alors, tous ces trucs, au fond, il faut une certaine régularité pour que ce plaisir s'installe. Si vous le faites une fois de temps en temps, il n'y a pas cette espèce de... Mais à partir du moment où on fait ça, sinon quotidiennement, du moins presque, ça fait absolument... C'est quelque chose, je ne sais pas, qui leste la journée, qui lui donne une espèce de centre de gravité. C'est très précieux.
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs l'origine du mot sanskrit yoga, la signification première, parce qu'elle vous va bien, vous qui vous définissez justement comme un être oscillant, fragmenté?
Alors, ce qu'on appelle, ce que veut dire yoga en sanskrit, c'est le joug par lequel qui permet d'atteler ensemble deux buffles, deux chevaux, enfin deux animaux qui spontanément auraient tendance à aller chacun de son côté. Et donc à, comme on dit, tirer à U et à Dia, ce qui est ce qui arrive à notre esprit, à notre personne, à notre identité à longueur de journée. On va tout le temps, au moins dans deux sens à la fois. Et le yoga, justement, essaye de rassembler les deux, de les faire tenir sous le même joug, au fond, ça tend à l'unité. On peut dire que tout ce à quoi on est soumis, c'est la dualité, c'est le fait qu'on dit, voilà, on oscille entre deux pôles, on part dans tous les sens, ou au moins dans deux sens, si vous voulez, quand on est atteint de troubles de l'humeur, ce qui est simplement une espèce d'amplification du truc naturel, quoi. Je veux dire, on est plutôt haut, plutôt bas, quoi. Le yoga, ça tend à unifier ça.
Vous avez pu discerner des progrès chez vous, Emmanuel Carrère, vous qui vous qualifiez de pathétiquement névrosé. Je sais que vous essayez plein de choses différentes à travers le yoga, mais notamment de restreindre l'empire de l'ego, qui est quand même une des choses les plus difficiles humainement.
Il y a du boulot, hein.
Mais pour
nous, ah oui, pour tout le monde, pour tout le monde. Non, je me vantais pas spécialement en disant que j'ai le plus gros d'ego. Non, bien sûr, c'est un. Disons que moi, en plus, j'en fais commerce. Mais je le raconte, je le débite, mon ego. Mais j'aimerais dire oui, honnêtement, j'en suis pas convaincu. Ce qu'on peut restreindre peut-être, c'est la tyrannie de la. Peut-être qu'il y a un peu moins de souffrance liée à la tyrannie de l'ego. Peut-être qu'on s'en accommode un peu mieux, voilà.
Emmanuel Carrère, à un moment, vous dites que les moments d'écriture, certains moments d'écriture, sont comme certains moments sexuels, l'apogée de votre vie, et que ça suffit pour avoir envie de rester en vie. Est-ce que si la sexualité et l'écriture étaient toujours disponibles et des choses harmonieuses, est-ce qu'on aurait besoin de faire du yoga?
Ah, j'avais jamais pensé à ça. C'est une bonne question. Moi, j'ai l'habitude, j'essaye de pas me poser des questions qui n'ont pas qui sont inapplicables dans la réalité. Donc, oui, vous avez sans doute raison, mais on peut pas avoir constamment à disposition l'inspiration littéraire et la pure harmonie sexuelle. Non, c'est déjà très très beau que ça vous soit donné de temps à autre.
Et j'imagine qu'en attendant, on fait du yoga. Donc on fait beaucoup de yoga.
Puis on peut se dire aussi que, à la fois que ces deux activités sont une forme de yoga, et aussi que le yoga, il prépare, il prédispose, il vous accompagne.
Emmanuel Carrère, dans votre livre Yoga, vous recopiez un sonnet de la poétesse du XVIe siècle, Louise Labbé, et vous avez choisi, parmi les 24 sonnets de son œuvre, le 8e. Est-ce que vous nous le liriez?
Oui, avec plaisir. Je pourrais même vous le dire sans le lire, parce que c'est le premier... À un moment, je me suis mis, parce que j'ai eu des troubles de la mémoire assez sérieux.
Après les électrochocs.
Après avoir reçu des électrochocs. Et le truc que j'ai... qu'un ami m'a poussé à faire pour justement lutter un peu contre ça, c'est d'apprendre de la poésie. Moi, j'avais jamais tellement appris. Au fond, j'ai jamais été un lecteur de poésie, et je le suis devenu bizarrement, vous voyez, sur le tard dans la vie. C'est devenu en fait ma lecture principale. Et le premier poème que j'ai appris, c'est ce poème de Louise Labbé. Que donc en fait je connais par cœur, mais comme j'ai peur de tout à coup d'avoir un trou de mémoire, je le lis au micro. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. J'adore ça. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup je ris et je larmoie, et en plaisir main griffe tourment j'endure. Mon bien s'en va. Et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, qu'il me remette en mon premier malheur. C'est un peu quand même le blason du bipolaire, hein, ça.
C'est exactement un poème de bipolaire.
Oui, c'est pour ça que je l'avais appris. Enfin, ça dit, voilà, j'ai chaud extrême en endurant froid dur, mon bien s'en va et à jamais il dure, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Ça arrive comme ça, on a l'impression d'être vraiment dans la douleur absolue, puis tout à coup, il se passe qu'on n'y est plus. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'y est plus. Et quand je crois ma joie être certaine, vraiment imprenable, une forteresse inébranlable, amour, la vie, vous remet en mon premier malheur. Alors, cela dit, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement justement le blason du mélancolique, c'est le blason de celui qui n'est pas que. Et donc, il y a cette chose satisfaisante de se dire encore une fois, et ça, je pense... C'est curieux parce que c'est, a priori, vraiment la sagesse populaire la plus basique, enfin, qui est du après la pluie, le beau temps. Et à vrai dire, je pense que c'est la sagesse la plus profonde et que souvent, d'ailleurs, que les choses les plus profondes, c'est quand on s'aperçoit de la vérité d'un lieu commun. Et là, au fond, ce sentiment, acquérir ce sentiment de l'impermanence des choses, de l'impermanence de ses propres sentiments, de ses propres états d'esprit, d'humeur et tout, c'est un très très grand progrès qu'on peut faire parce que on se dit que à un moment ça va être autre chose, comme vous voyez, comme vraiment la nuit succède au jour, le vide au plein, la tempête au calme et la joie à la mélancolie ou à la détresse.
On n'a pas eu tort de voir dans mon roman un livre de la fin, car elle est issue du sentiment de la crise universelle de notre culture, de l'expérience de la catastrophe allemande et d'une constellation apocalyptique. Mais son intention n'est pas nihiliste. Il ne désespère pas absolument du destin de l'humanité.
Juste pour le plaisir d'entendre sa voix, Thomas Mann, à propos de son Docteur Faustus sur la RTF en 1952, l'écrivain allemand couronné par le prix Nobel en 1929 est l'auteur de votre citation consolatoire, Emmanuel Carrère. Elle est tirée de la nouvelle Tristan de 1903. Il s'agit du constat du narrateur au sujet d'un écrivain assez laborieux. Un écrivain est un homme pour qui c'est plus difficile d'écrire que pour les autres. Pour vous, c'est difficile d'écrire ?
Oui, enfin pas tout le temps. Il y a des c'est pareil. Enfin, il y a des moments où ça vient, et puis d'autres moments plus nombreux, plus longs sans doute, où ça rame, où ça peut pas venir. Mais je trouve que cette phrase de Thomas Mann, dire un écrivain, c'est le type qui a plus de mal à écrire que les autres, je la trouve très très encourageante. Et soit dit en passant, je savais pas que Thomas Mann parlait français et si bien français. Et c'est je sais pas si Thomas Mann est un de mes écrivains préférés, mais je sais que La Montagne Magique est un de mes romans préférés. Que ça fait partie, il y a une catégorie de romans, de livres, mais c'est particulièrement de romans, qui je trouve est peu remarquée. C'est les livres dans lesquels on aurait envie de vivre.
Par exemple.
Pour moi, La Montagne Magique. Pour moi, le sanatorium de La Montagne Magique, je m'y sentirais merveilleusement bien. Et je trouve que La Montagne Magique est un roman extraordinairement... alors que on sait très bien que c'est un roman par moments extrêmement fastidieux, avec des conversations philosophiques sans fin et tout, mais il y a quelque chose d'extraordinairement, à mes yeux, séduisant et désirable dans la vie qu'on mène en haut de cette montagne.
On va faire un tour dans une montagne dans quelques instants, Emmanuel Carrère, et se plonger dans le feutré d'une neige picturale en compagnie d'un oiseau dandy. Bon, là, c'est une aguiche. Le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter, Teenage Fantasy de Voyou.
Tu n'étais pas comme je croyais. J'étais un peu jeune et aveugle. Je n'avais pas les clés. Tu étais de toutes mes pensées. Je ne parlais plus que de toi. M'agacer quand tu ne répondais pas. Et les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre, d'arrêter de tomber pour celle qui s'en fichait de moi. Oui, les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre, d'arrêter de tomber pour celle qui s'en fichait de moi. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. J'ai tout un tas de choses en tête. Peut-être était-il insensé de penser t'aimer pour de vrai. J'aimerais pouvoir enfin grandir avant de laisser quelqu'un m'aimer, apprendre un peu plus à me cerner. Et ma mère me demandait si en regardant le futur, je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Et toujours elle demandait si en regardant le futur, je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Dans les cases, pas besoin de courir, pas besoin de souffrir. La route est si longue et pleine de surprises. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, les gens qui nous aiment, on les méprise.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Emmanuel Carrère. Vous avez choisi un tableau de Claude Monet peint vers 1868 à Étretat, tableau qui sera refusé au salon de 1879, La Pie, conservé au musée d'Orsay. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre avec ce tableau et le décrire ?
Alors, ma rencontre avec ce tableau, je me rappelle plus. Ouais. Mais le décrire, oui, je peux essayer. C'est un paysage de neige, à peu près entièrement blanc. On voit une barrière assez basse couverte de neige. À un endroit, une sorte de portillon noir. Au fond, très au loin, ce qui doit être l'arrière d'une ferme, quelque chose comme ça. Le peintre et le spectateur du tableau se trouvent à environ, je sais pas, une dizaine de mètres. Donc, dans tout ça, il y a un ou deux arbres en dessus. Il y a une extraordinaire lumière d'hiver. C'est un tableau extraordinairement lumineux. Je connais peu de tableaux aussi lumineux. Et dans toute cette blancheur, mais qui est, je sais pas, on sent le poudroiement de la neige. C'est vraiment un tableau à regarder de près. Enfin, c'est qu'à tous les tableaux, mais où on voit toutes les petites choses qui fabriquent cette neige blanche devant vous. Toutes ces... Et il y a cette pie noire qui est comme, je sais pas, en fait, comme une note sur une portée. Mais ce tableau a quelque chose de, alors, c'est sans doute vraiment pour moi un de ceux qui donne le plus le sentiment de l'émerveillement devant le monde, quoi. Cette espèce de lumière d'hiver étincelante, magique. C'est un tableau qui exprime une joie extraordinaire. Alors, cela dit, si on veut être toujours dans notre espèce de petit truc de balancement, quoi, entre le joie et peine. Je pense à un autre tableau de Monet qui a été fait 2 ou 3 ans plus tard, où la femme de Monet, Camille, qui était son modèle, meurt. Meurt d'ailleurs, ça se passe très mal, quoi. C'est une dure mort. Et Monet, la veille, il se retrouve à veiller sa femme morte, il est seul. Et à un moment, machinalement, dit-il, bah, il se met à peindre. Il se met à la peindre sur son lit de mort, morte. Et il commence à se poser les questions de quelle couleur exactement. Il se met à devenir technicien de la peinture, devant le corps de sa femme. Donc le portrait s'appelle Camille sur son lit de mort. Et ensuite, Monet ne l'a plus jamais sorti de son atelier. Il n'a été sorti de son atelier qu'après sa mort. Il n'en a jamais parlé à personne, sauf à Clémenceau, avec qui il était très lié d'amitié, et il a confessé à Clémenceau l'espèce de, plus que de honte, mais d'horreur sacrée qu'il éprouvait à avoir fait ça. Et j'aime énormément Monet, mais ça fait partie des choses qui fait que c'est le même homme qui a fait la pie, et qui a fait le portrait de Camille morte, Camille sur son lit de mort, qui est, c'est ça que je voulais dire.
Mais là, vous parlez, Emmanuel Carrère, d'horreur sacrée, et je le note puisqu'il y a une phrase de Monet que vous affectionnez particulièrement, qui est « De ma vie, je n'ai jamais rien vu qui fût laid ». J'aimerais savoir si vous acquiescez à cette affirmation. Vous qui sondez quand même l'histoire, l'âme humaine, dans ce que ça a d'horrifique aussi, vous êtes parfois reporter quand même, de la laideur. Est-ce que tout peut être beau?
Cette phrase je n'ai jamais rien vu qui fût laid », bien sûr qu'on peut dire tout ce qu'on veut contre, qu'il n'y a que des arguments contre. En même temps, je crois que c'est un mantra utile comme artiste et comme être humain. J'en ai un autre comme ça que j'ai cité je sais pas combien de fois, qui est un sutra bouddhiste qui dit l'homme qui se croit supérieur, inférieur ou même égal à un autre homme ne connaît pas la réalité.
Mais c'est le
on peut
même
bien
égal,
sûr dire liberté. que Mère Teresa est quelqu'un de supérieur à Michel Fourniret. Oui, d'accord, ça c'est évident. Il n'empêche que dans cette, je pense que si vous voulez, il y a plus à gagner à se pénétrer la tête, l'âme, le corps d'un mantra comme ça ou de celui de Monet que de prendre acte de ce qui est une évidence.
Ah, dis donc, ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le journal.
Quoi?
Ah, écoute un peu, c'est à propos, là, de l'Europe des Six, tu sais, l'Europe agricole, à Bruxelles. Écoute, la séance reprit à 20h, et à minuit, les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée.
Mais c'est pas possible.
Ah, écoute, je t'assure, écoute, ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le Monde, quand même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée.
Non, je te crois pas.
Oh, bah écoute, lis-le toi-même.
Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une collation bien méritée. Écoute, vraiment, tu exagères.
Bon, moi, j'éteins. T'es bien nu, hein?
Ouais.
Jean-Pierre Léo et Claude Jade dans Domicile conjugal de François Truffaut, sorti en 1970. Pourquoi cette scène, Emmanuel Carrère?
D'abord, vous m'avez demandé un bout de dialogue de film. C'est pas si facile de trouver un bout de dialogue de film qui fait moins d'une minute. Et Par exemple, j'avais pensé à un autre qui est dans Baiser volé de Truffaut, que j'aime encore plus, qui est, je dis ça pour ceux qui se le rappellent, c'est le long
truc
de Michel Lonsdale, demandant, disons pourquoi les gens ne l'aiment pas.
Oui.
Mais le problème, c'est, j'ai essayé, mais ça dure 3 minutes. Vous n'étiez pas prête à m'accorder
3 minutes
de Michel Lonsdale. Donc, il y a ça, et je dois dire, c'est typiquement le truc, comment est-ce qu'on trouve un truc comme ça? C'est sans doute qu'on l'a fait réellement dans la vie, de se marrer, de lire dans le monde, de dire, ah oui, ils sont revenus dans leur chambre où les attendaient des call girls bien excitées, au lieu de des collations bien méritées. Je trouve ça irrésistiblement drôle.
Domicile conjugal, c'est un film, charmant, mais avec quand même un spleen en sourdine. C'est sur le délitement du couple. Il y a une harmonie pendant 40 minutes, et puis ensuite, c'est quand même des êtres tristes.
Oui, d'une façon générale, la série de l'histoire des Douanel, elle est quand même assez mélancolique. Enfin, elle était mélancolique et en même temps enchantée. Il y a quelque chose d'incroyablement, c'est surtout dans V de Baiser volé qu'il y a cette grâce d'un bout à l'autre qui en fait vraiment, vraiment un film miraculeux. Domicile conjugal, c'est pas tout à fait au même niveau. Mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose d'incroyablement, d'incroyablement allant et gracieux. Et ça raconte quand même quelque chose d'un peu triste, comme vous dites, comment un couple se met à partir en couille, quoi,
Il paraît que quand Jean-Pierre Léo a vu le premier montage de Baiser volé, il a dit à Truffaut, non mais là, c'est bon, j'ai compris, là, il faut vraiment que je change avec les filles. Et Truffaut lui a dit, mais c'est pas toi, c'est Douanel. Et il a fait, non, là, vraiment, vraiment, j'ai vu qu'il fallait que je change. Il est temps de découvrir vos antidotes musicaux, Emmanuel Carrère.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Remède à la Mélancolie sur France Inter avec Emmanuel Carrère qui vient de nous faire entendre un titre de 1968 chanté par Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille, morceau inspiré de la chanson de 1802, Tableau de Paris à 5h du matin de Marc-Antoine Madeleine Désaugier.
Alors là, vous m'embouchez un coin.
Bah c'est le but. Quel est l'effet de l'écoute de ce morceau sur votre humeur, Emmanuel Carrère?
Le truc merveilleux, c'est la flûte. C'est la petite flûte qui
de
fait...
Roger Bourdin.
Vous connaissez l'histoire, c'est Dutronc et, j'allais dire, Claude Jacques Lanzmann. sont un soir dans un restaurant et ils ont envie de faire une chanson sur Paris au petit matin. Et ils passent la nuit, le restaurant fermant très tard, à vraiment, sur la nappe du restaurant, écrire cette chanson. La chanson, elle est très bien, les paroles sont formidables, Dutronc avec sa voix à la fois détachée, un peu rogue et tout, mais il se passe un truc, c'est quand ils vont l'enregistrer, l'arrangement, il est moyen. Et ils savent pas, il y a quelque chose qui cloche. Et dans le studio, d'à côté, il y a un mec qui connaissent un peu, que Dutronc connaît un peu, qui est un flûtiste classique, un très bon flûtiste, Roger Bourdin. Et Bourdin, il dit, on va essayer un truc. Et il fait une seule prise où il fait ces traits de flûte qui, alors là, sont, je trouve, un remède à la mélancolie extraordinairement efficace. C'est d'une, je sais pas, c'est d'une gaieté, c'est d'une, ça a une façon de tout le temps retomber sur ses pieds, c'est des arpèges, c'est des trilles. Enfin, le type, il fait un truc, mais enchanté. Et la chanson, qui de toute manière était bien, devient vraiment une merveille.
Suran affirmait, s'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. On entend la cantate religieuse composée par Bach à Leipzig pour le dimanche 10 septembre 1724. Rappelez-vous, soit le 14e dimanche après la Trinité, Emmanuel Carrère, pouvez-vous nous donner le nom de ce qu'on entend? C'est un piège, évidemment, c'est parce que je n'arrive pas à le prononcer.
À la cantate, oui, attendez, moi je ne parle pas l'allemand, c'est Jésus, du meine Seele, ou quelque chose comme ça.
Jésus, toi qui pars ta mort amère.
Voilà, alors non, là, dans cela, il ne parle pas de sa mort amère, hein. Il parle quand même, c'est le deuxième air, enfin on dit quelque chose que, comme l'âme se doit se hâter vers Jésus, son maître, etc. Bon, c'est quand même, c'est une musique extraordinairement joyeuse, maintenant, je vais vous dire, en l'écoutant, j'ai un peu regretté mon choix, pas parce que, je dirais, c'est une merveille, hein, cette aria avec ces deux femmes, ces voix qui s'entrelacent comme ça, mais au fond parce que j'avais droit à deux morceaux de musique et j'ai pris deux morceaux joyeux. Et c'est une bêtise. En fait, j'aurais le premier morceau, l'un des deux était très bien, mais il aurait fallu un morceau plus grave, pas forcément mélancolique, mais pas... parce que si vous voulez, s'il s'agit de remède à la mélancolie, je pense pas qu'il faille traiter la mélancolie par la joie. Que je veux dire, c'est pas d'écouter Rires et Chansons ou d'un truc comme ça qui va nous rendre moins mélancoliques.
Le vaccin. Dire,
faut plutôt traiter la mélancolie par la mélancolie. Plutôt que d'écouter des choses merveilleuses comme ça, il faut écouter du Dowland, il faut écouter Flow My Tears ou des choses comme ça.
Mais pourquoi? Pour se purger?
D'abord parce que c'est beau aussi.
Oui.
C'est tout simplement très très beau. Et parce que je pense que déjà, dès qu'on peut donner forme à une détresse, dès qu'on peut représenter une douleur, déjà, on l'apprivoise un peu. On est moins écrasé par elle. Donc c'est très précieux, les représentations de la mélancolie comme ça. On en a besoin. On a parfois plus besoin que d'allégresse.
Emmanuel Carrère, vous nous avez demandé des cloches de vaches valaisannes, donc des vaches d'Airain dans le canton du Valais, dans le sud de la Suisse. On a trouvé des cloches de vaches suisses, ça on peut vous le certifier, et c'est pour illustrer...
J'aimerais vous dire que, ah non, elles sont pas valaisannes, elles sont vaudoises,
c'est vrai.
Mais non.
Disputons-nous pour finir cette émission. L'activité qui vous grise, c'est la marche en montagne, il en est question au sens propre comme au sens figuré dans yoga, puisque avec un ami vous vous y rendez régulièrement, et que c'est aussi la voie du milieu, celle qui vous correspond, Emmanuel Carrère. Vous dites que vous êtes un méditant de montagne à vache.
Oui, quand je dis la voie du milieu, c'est-à-dire que j'aime la montagne, mais je suis pas du tout, et je n'ai jamais été, ni même rêvé d'être un alpiniste. Ça veut dire qu'il y a une certaine hauteur à laquelle je vais pas. D'un autre côté, j'aime pas rester le cul au fond de la vallée. Donc, l'espèce de, vous voyez, de zone, de bande intermédiaire, qui est ce qu'on appelle justement la montagne à vaches, c'est vraiment celle qui me convient le mieux. Et bien sûr, j'essaye de développer ça en dehors de la marche en montagne, essayer, je ne sais pas, d'occuper une place dans le monde et dans la vie qui soit un peu l'équivalent de la montagne à vaches. Mais au fond, réellement, c'est pas une coquetterie, il y a peu de musique que j'aime autant que ces tintinabulis de vaches.
Alors on termine là, sur cette voie du milieu. Merci beaucoup Emmanuel Carrère d'être venu dans cette émission.
Ben merci de votre invitation. On a plein de choses à se raconter ensuite hors antenne. Vous
hors antenne ou même à l'antenne, puisqu'on ne cache rien, évidemment.
Il faut s'arrêter, paraît-il.
Mais oui, là, il faut s'arrêter. Je rappelle que votre dernier livre, Yoga, est paru aux éditions POL. Au printemps prochain, si tout va bien, on pourra voir votre adaptation du récit de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, avec dans le rôle principal Juliette Binoche. Et peut-être, avec un peu de patience, un projet sur lequel vous travaillez, sur un documentaire sur votre quartier, un peu à la façon de Pérec.
Oui, tout à fait. Oui, enfin, on verra.
On verra, alors on verra. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a autant d'allure qu'une soucoupe fléchée. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.